saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
S'il faut un début à toute chose, la fin, elle, n'est pas une nécessité et on ne voit vraiment pas pourquoi le Festival d'automne, né en octobre 1972 sous l'impulsion de Michel Guy, devrait un jour baisser le rideau. Depuis sa fondation, c'était à l'époque Georges Pompidou qui présidait aux Destinées de la France, le Festival n'a jamais dérogé à sa ligne. Défricher, révéler, bouleverser les attentes du public et lui faire faire toujours un pas de plus en avant dans sa perception de l'art. Il y eut des années sidérantes, d'autres furent en demi-teinte. Le festival pulse au rythme des créateurs qui l'invitent. Si ces derniers sont inspirés, il le sera également. Le festival d'automne est une chambre d'écho de la création artistique nationale et internationale. Alors comment rester jeune lorsqu'on a près de 50 ans? Il faut parfois regarder en arrière pour savoir quel avenir nous attend et dans quel présent on se trouve. Nous entrons aujourd'hui dans une mémoire vivante, celle de Marie Collin, co-directrice artistique avec Joséphine Markovitch de cette institution parisienne que chapeaute désormais Emmanuel de Marcy-Motta. Nous ouvrons à sa lettre A comme automne, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Elle se dirigera dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Quimper. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
En ce qui concerne le festival d'automne, je n'ai pas du tout peur qu'il soit élitaire, puisqu'il est fait pour l'être. C'est un festival qui s'adresse essentiellement, dans mon esprit, aux gens qui sont curieux des différentes démarches d'aujourd'hui, en France et ailleurs, curieux des civilisations extra-occidentales, curieux de découvrir des démarches fortes. Le mot gravité est pour moi est très important naturellement dans le festival d'automne, dans mes goûts artistiques et dans en tout cas ceux qui président à la composition du programme du festival d'automne depuis que je l'ai créé. Mais le mot gravité est un mot qui, au fond, est probablement le mot qui aura guidé toute ma vie. Notamment dès lors qu'il s'agit de l'art.
Bonjour Marie Collin.
Bonjour.
Je vous vois songeuse en écoutant la voix de Michel Guy. Oui.
Très émue. En plus, je ne connaissais pas cette archive. Et ça me ramène
des
à
années.
Si loin. Parce que c'est... Oui, c'est les années d'apprentissage pour moi.
C'est étrange parce qu'il emploie ce mot de gravité. Comme étant finalement
oui, ce qui lui est pas du tout collé d'habitude comme adjectif ou comme mot.
C'est vrai ?
Oui, parce qu'on a souvent dit que Michel était prime sautier, snob, léger, spirituel aussi, mais grave. Franchement, c'est très étonnant cette archive pour moi.
Mais comme en écho à cette archive, vous-même, en 1989, Marie Collin, vous étiez invitée dans une émission de France Culture, le matin, tôt.
Déjà.
Oui, et vous parliez, vous référant à Michel Guy, d'une attitude morale que vous aviez dans vos choix artistiques. Expression qui, là aussi, m'a interpellée. Attitude morale dans les choix artistiques, ça veut dire quoi? Parce que je pense que vous n'avez pas dérogé à cette ligne de conduite-là.
Bah, ça veut dire une certaine exigence par rapport à ce qui nous semble novateur, original, courageux. C'est des qualités morales, tout ça, dans la création. Et pas seulement que ce soit divertissant et juste un spectacle comme un autre. C'est une exigence, je crois, intellectuelle.
Mais l'exigence, ça a été un travail, parfois ?
Oui, oui. Ben oui, parce que ça se cherche, ça se discute avec les créateurs. Après, on essaie aussi de la transmettre au public, parce qu'autrement, on n'existe plus. Là, ça fait quand même plus de 40 ans que Joséphine et moi, on travaille dans ce festival, que je crois on a maintenu ce niveau d'exigence, mais aussi de transmission. Parce qu'il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive, des salles remplies et des spectateurs qui plébiscitent tout de même cette recherche. Et pour les artistes, c'est la même chose. Donc, c'est un travail dans deux directions. Et effectivement, avec une sorte de tenue...
De rigueur, presque.
De rigueur, dont parle Michel. Et je crois qu'on a vraiment... ça a été notre école, hein, Joséphine et moi. Et je crois qu'on a été fidèles.
En même temps, vous avez sans doute été aidée, entre guillemets, en cela, par le fait que, si le Festival d'automne né en 72, sous la présidence de Georges Pompidou, je le rappelais en ouverture d'émission, a connu 7 présidents de la République,
oui,
lui n'a connu
fou.
Que très peu de directeurs. Michel Guy, puis le très regretté Alain Combeck,
oui.
Puis vous-même et Emmanuel de Marcimota, ce qui est une pérennité totalement exceptionnelle, presque incongrue dans le paysage théâtral français.
Dans les histoires des différents festivals, c'est quand même très rare que les programmes soient assurés quasiment par les mêmes personnes depuis la création. Je crois que c'est unique au monde.
Théâtre 1972, Bernard Dort.
Un peu en vrac, disons que 1972, c'est la confirmation de la nouveauté du travail de quelqu'un qu'on n'ose plus même dire un metteur en scène, mais un créateur de théâtre, comme Bob Wilson, l'Américain qui avait présenté l'année d'avant Le regard du sourd au Festival de Nancy, et qui, en 1972, donne une espèce de 24 heures du théâtre à l'Opéra Comique, un immense spectacle qui dure une journée et qui s'appelait Ouverture. Et on retrouve là ce style si particulier de Bob Wilson, ce théâtre, comment dire, onirico-réaliste, enfin.
Vous parlez de texte.
Oui.
Ça m'intéresse beaucoup parce que actuellement, tout de même, le texte ne semble pas être ce que l'on considère d'essentiel dans le théâtre. Il est évident qu'il y a toute une forme d'art dramatique actuellement qui n'accorde pas au texte l'importance qu'on lui accordait autrefois. Est-ce que vous êtes justement décidé à défendre le texte au théâtre contre des tentatives d'autres formes dramatiques qui cèdent davantage à la fascination de la mise en scène, du jeu de l'acteur, etc.
Je veux faire de tout.
Nous avons vu, j'ai fait allusion tout à l'heure, Madeleine Renaud dans le spectacle de Bob Wilson, où elle ne disait pas un mot, ou alors quelques phrases comme ça, très rapidement, mais où elle restait immobile pendant près de 2 heures. N'est-ce pas? Donc, ce qui prouve qu'elle n'est pas fermée.
C'est ma curiosité. Je voulais connaître, je voulais pénétrer autrement que comme spectatrice à l'univers de Wilson. Mais ce qui m'a intéressée là, ce n'est pas le texte, puisqu'en effet, il n'y en avait pas, mais c'était l'univers que cet homme s'est créé.
Alors, il y a des séquences inaugurales qui en disent long sur la suite. 1972, création du Festival d'automne, arrivée de Bob Wilson, Robert Wilson, avec ce spectacle Ouverture, et quand même un peu incrédulité de certains commentateurs, pas Bernard Dort, hein, qu'on entendait en tout début de cette séquence d'archives, qui comprennent pas où est passé le texte, que se passe-t-il? Madeleine Renaud qui va jouer 2 heures immobile dans un spectacle sans texte. C'est fou, mais ces chocs-là, ce choc-là qui a été provoqué d'emblée hein, par Michel Guy et la première équipe du Festival d'automne.
Festival de Nancy, quand même.
Oui, mais Nancy, c'était Nancy, c'était pas Paris.
Oui, oui,
Nancy,
oui.
Nancy, c'était un
mais
an
enfin,
avant, Marie-Colin.
C'est la grande entrée de Bob Wilson en France. Faut pas l'oublier.
Est-ce qu'après, on recherche ce choc-là tout le temps, quand on est programmateur ou programmatrice, Marie-Colin?
Ah bah c'est sûr. C'est sûr qu'on cherche à être étonné, bouleversé, à découvrir. Oui, tout le temps. Tout le temps, on fait pas ce métier si on n'a pas envie, tous les jours, de découvrir un artiste qui va vous changer et changer le regard des autres. C'est sûr. Et c'est ce qui est fantastique, c'est que ça arrive. C'est ça qui est bien. C'est que
vous n'êtes jamais déçu, alors.
Moi, je suis toujours, et c'est pour ça que je continue encore à faire ce métier, chaque fois que je vais au théâtre ou voir de la danse ou un concert ou une exposition, je pense que ça va être un grand moment. Alors, bon, c'est pas tous les jours le cas, mais comme j'y suis quasiment tous les soirs, ça arrive assez souvent finalement que je voyage beaucoup et que je multiplie les chances. Parce que je vais voir des choses dans tous les pays, autant que possible ce soit. Mais ça arrive très, vraiment très souvent.
Mais alors, dans cette même interview de 1989, interviewée par à l'époque Jean Lebrun, Marie Collin, vous disiez que vous n'aimiez pas les vols long courrier et que vous alliez beaucoup justement dans la France, très loin dans les régions, et que c'était surtout ça que vous faisiez. Alors, à un moment donné, vous avez franchi les océans, vous avez franchi les mers. Pourquoi ? Parce qu'il fallait étendre géographiquement le périmètre ? Parce qu'il n'y avait plus rien qui était là à portée de train ?
Non, je continue, je vais...
Vous faites les deux ?
Oui, je fais les deux, et puis bon... Quand on fait ce métier depuis assez longtemps, on a quand même beaucoup de camarades dans tous les pays. Je connais très bien tous les autres festivals du monde. On se parle beaucoup. C'est quand même assez rare qu'un génie échappe à cette armée de programmateurs qui laboure absolument la terre entière. C'est même incroyable. Ça n'existait pas du tout quand j'ai commencé.
Donc aucun génie ne passera à travers les mailles
du filet. Moi, je pense pas, mais bon. Il y a toujours des gens qui apparaissent, des créateurs qui apparaissent. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être au tout début et de déceler cette petite étincelle. C'est aussi un peu comme un jeu pour nous.
Un pari que vous prenez ?
Oui, mais enfin, c'est des paris. C'est assez raisonné. Parce qu'on ne peut pas non plus jouer les Pygmalions, penser qu'on va trouver le génie toute seule. C'est beaucoup de discussions avec beaucoup de partenaires, c'est des voyages qu'on fait à plusieurs, c'est des concertations, c'est des discussions avec les artistes eux-mêmes. Parce qu'on peut aussi être séduit comme ça un soir, et puis finalement, en discutant un peu après... on se rend compte que c'est pas aussi intéressant qu'on l'avait cru.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
On va passer de 1972 à 1992. Marie Collin, le festival a 20 ans et un homme que l'on croyait mythique, mais qui n'était pas tant que ça, se présente au micro d'Alain Van Steen. Cet homme, c'est Alain Krombeck.
Il y a une volonté politique très claire. Aujourd'hui, il y a 20 ans, nous sépare et il est possible de commencer à dresser l'histoire des années 70. Je crois que le rôle du président Pompidou a été absolument déterminant. C'est-à-dire qu'il y a eu, chez Georges Pompidou, la volonté de secouer Paris. On le voit, le festival d'automne, Beaubourg. En 97, on fêtera le 20e anniversaire de Beaubourg. Le renouveau de l'Opéra de Paris, le renouveau de la Comédie Française. C'est-à-dire que bon, Paris était une ville, il y avait beaucoup d'activités, c'est sûr, mais un peu repliée sur elle-même. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1974, en prenant l'avion le matin pour Milan, je revenais avec Il Campiello de Strehler, qui n'avait pas mis les pieds à Paris depuis 15 ans. C'est-à-dire que personne n'avait eu l'idée d'inviter Georges Strehler à Paris. On prenait l'avion pour aller à Berlin pour discuter la première venue de la Schaubühne de Berlin à Paris. Et dans les discussions avec Stein, c'était oui, je veux bien venir avec les estivants, mais à condition que Klaus Michael Gruber fasse partie du voyage.
Vous parliez, Marie Collin, de l'émotion que vous aviez en écoutant la voix de Michel Guy tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe, ce qui me frappe en écoutant celle d'Alain Krombeck, c'est la détermination incroyable qu'on entend dans ce qu'il dit et dans sa façon de le dire.
Oui.
Il est résolu. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Et il sait pourquoi il y va. Hein.
Mais je pense qu'il a vraiment, c'était une de ses qualités. Hein. Il a toujours été comme ça. Et j'imagine que quand il était à l'UNEF, il était comme ça. Parce qu'on a toujours dit qu'il était mutique, mais comme vous le signalez très bien, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que quand il commençait à parler, c'était un long flot difficile à arrêter, très précis et effectivement très décidé et très engagé.
En quelques phrases, il donne le tournis. Il parle de Strehler, qui n'était pas venu en France depuis 15 ans, dit-il. Il parle de Peter Stein, la Schaubühne de Berlin. Il parle de Klaus Michael Gruber. Donc là, on est vraiment dans le haut du panier des créateurs qui ont fait date, des créateurs qui ont marqué non seulement les spectateurs, mais qui ont, d'une certaine manière, marqué leur époque. Il y en a encore, aujourd'hui, des créateurs qui marquent leur époque, Marie Collin ?
Oui, absolument. Dans tous les domaines.
Mais pourquoi on a toujours l'impression que l'âge d'or, c'était cet âge-là ?
C'était un âge
c'était
d'or.
C'était Chéreau, c'était Vitesse, c'était Gruber, c'était Strehler, c'était Stein.
Oui, non, mais c'est vrai, c'était un âge d'or, parce que là, on parle de cela, mais il y avait aussi, je ne sais pas, Brooke, Cunningham, Carmelo Bene. Il y a des quantités d'artistes extraordinaires qui ont fait le paysage artistique des années 70, 80, Pina Bausch, 90. Cantor, il y a des cycles, il y a des grandes vagues. Alors, on n'est pas dans le creux, on est dans une période où, effectivement, les trentenaires, disons, sortent un peu du lot, commencent à s'affirmer. Je sais pas, en France, si on parle du théâtre, on voit très bien quelles sont les personnalités fortes, déterminées et innovante, que ce soit Sylvain Creusevaux pour ma part, ou Julien Gosselin.
Ou Julien Gosselin, tous deux présents à automne cette
oui,
année, bien sûr.
Oui, et qui sont, ils sont très jeunes, tous les deux, et ils commencent une grande histoire, je crois. C'est peut-être plus compliqué de s'affirmer aujourd'hui, parce que le paysage culturel est très, très différent de ce que c'était il y a 20 ans ou 25, très différent.
Et peut-être aussi qu'on a beaucoup demandé.
Paysage économique.
Et voilà. Et on a peut-être beaucoup demandé aux artistes de se préoccuper d'abord de remplir les salles avant de faire des chefs-d'œuvre. Et l'effet culpabilité, sans doute, jouant bah aujourd'hui ces fameux chocs esthétiques dont parlait André Malraux et dont se revendique beaucoup Julien Gosselin, ils sont un petit peu moins perceptibles.
Oui.
Ces créateurs dont on parle, ils étaient également créateurs dans un monde où les équilibres politiques étaient sans doute plus lisibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous pensez que la création nationale ou internationale, elle est perturbée aussi par la perte de repères, tout simplement, qu'on peut avoir. Il n'y a plus un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest. Le mur s'est effondré depuis fort longtemps à Berlin. Est-ce que ça a pu, d'une certaine manière, secouer et fragiliser aussi la créativité ?
C'est probable. Moi, je me souviens de Tadeusz Kantor qui disait qu'il avait besoin du mur pour se taper la tête contre. Ben oui. Et ça, il l'a vraiment dit et redit. Donc, c'est certain que dans ce paysage quand même très flou, très confus, ça irrigue aussi les plateaux de théâtre. Les créateurs, ils sont pas...
ils sont pas en vase clos.
Ben non, non. C'est certain que c'est moins... C'est moins clair.
Alors, puisque votre vie, votre existence se passe entre la France, l'Italie, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre et j'en passe, Marie Collin, je voudrais vous proposer un petit tour du monde en quelques paroles choisies de certains des artistes régulièrement ou nouvellement invités au Festival d'automne.
Je fais une danse et puis je travaille avec des danseurs et puis nous voulons de placer la danse sur une scène, sur la scène, dans un théâtre, ou dans un gymnasium, ou dans une église, ou quelque chose, ou en dehors, si. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé dans cet événement.
C'est vrai que je suis un peu obsessionnel avec un minimalisme plus petit et plus à un pouvoir d'évocation grand, plus ça me surprend, quoi. Dans la pièce qui s'appelait Jérôme Bell, La scène dont je suis le plus fier, par exemple, c'est où j'arrive à éclairer un peu de salive d'un danseur. Et on voit que ça, à un moment, sur une scène de 100 mètres carrés.
Encore mieux, je travaille sur la troisième image, que c'est l'image qui n'existe pas. Et donc, qui est l'image qui appartient entièrement à l'intimité de chaque spectateur. Donc, c'est inconnu, c'est au-delà de la capacité du langage de la nommer. Donc, c'est quelque chose qui échappe tout le temps, mais qui est là.
Notre point de départ à nous, c'est le choix de l'œuvre qu'on monte. On la décortique, on espère à chaque fois qu'elle va exiger un processus de travail, de répétition différent. Et c'est au fur et à mesure de cette décortication, de cette recherche, que se met en place le processus de répétition.
Lorsque Bâle grandissait dans l'antre maternel.
Je trouve qu'en fait, alors dans plusieurs métiers, par rapport à des théâtres, il faut faire plus de preuves. Quand on est une femme, j'ai l'impression. Deuxièmement, dans mon métier d'actrice, les rôles qu'on peut nous proposer sont très stéréotypés. Alors, où on est la rigolote de service, où on est sexy, où on fait peur, où on est folle, on peut pas être tout à la fois. Et ça, pour moi, ça c'est très important, ça me donne envie de faire des spectacles, vous voyez, parce qu'une femme, elle est tout à la fois, comme un homme est tout à la fois. Enfin, je veux dire, on peut être très bien se comporter à un moment, être une vraie connasse par ailleurs, être faible, être forte, être stupide, être tout ça, et avoir des responsabilités, et faire n'importe quoi aussi. On est tout ça. Et donc, cette complexité-là de la femme, pour moi, c'est important de la défendre, et elle est difficile à défendre, oui, je trouve.
Voilà Marie Collin, rapide tour d'horizon, vous les avez tous reconnus. Merce Cunningham,
oui.
Jérôme Bell, Romeo Castellucci,
Sylvain, et Laetitia Doche.
Sylvain Creusevaux, et on a voulu finir par Laetitia Doche qui était invitée cette année,
oui,
au Festival d'automne. Et dont je pense vous
avec
êtes.
Ses
vous
chevaux.
Êtes, avec son cheval.
Oui,
hein,
enfin,
son
il y en avait deux, parce qu'il y avait
un copain
du cheval en coulisses. Oui.
C'est vrai. Voilà, par exemple. Une jeune femme sur qui demain le théâtre va pouvoir, je pense, se reposer parce qu'elle, elle est dans la singularité, dans l'originalité. Qui serait le grand absent de ce petit panorama, selon vous?
Oh, il y en a plein. Non, ça, alors, vraiment, il y a beaucoup de monde.
C'est qui votre préféré, à vous? À part Gruber, à part Klaus Michael Gruber, celui que vous préférez par-dessus tout.
Bon, moi, j'ai une amitié de toujours avec Bob Wilson. Ça, c'est sûr, on s'est connus. Moi, je l'ai connu très, très jeune homme, très timide, très fermé, dans les années 70. Donc, ça fait quand même très longtemps. J'essaie de voir à peu près tout ce qu'il fait, ce qui relève vraiment du pari impossible. Mais c'est quelqu'un que... C'est comme un frère. On se connaît et on s'aime beaucoup. Donc voilà, si c'est côté amitié, côté estime, côté admiration pour l'artiste aussi, parce que Bob, bon, évidemment qu'il a évolué et que c'est plus l'inventeur qu'il fut, c'est certain. Mais quand il réussit à faire encore quelques spectacles magnifiques, ils le sont totalement. Et c'est le fait de grands créateurs quand même, de tenir, c'est comme Peter Brook, de, comme ça, sur des vies immenses et longues, de faire encore des chefs-d'œuvre. Alors, pas tous les quarts d'heure, mais quand même.
Il y a une voix qu'on n'aura pas entendue dans cette émission, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler de lui. Un peu, c'est la voix de Pierre Berger qui était,
oui,
un ami du festival, un ami personnel de vous,
oui,
Marie Collin, et un grand mécène. Est-ce que la disparition de Pierre Berger fragilise le festival d'automne?
Fragilise, en tout cas, on est extrêmement triste parce qu'il s'occupait beaucoup du futur du festival et de son présent aussi, puisque c'était un grand mécène. Il présidait aussi l'association des amis du festival. Ça veut dire qu'il se donnait beaucoup de mal pour trouver d'autres mécènes, mmh, et aussi pour nous protéger des aléas de la politique française. Donc, Pierre, c'est sûr que ça va nous manquer, fragilisé. J'espère qu'il nous a donné assez de force et qu'il a bien solidifié les bases. La Fondation Saint-Laurent-Pierre-Berger est un des mécènes les plus fidèles du festival et Madison Cox poursuit la mission de Pierre. En tout cas, que Pierre lui a confié.
Bonne nouvelle, Marie Collin. Merci beaucoup d'être passée nous voir dans une saison au théâtre. Le festival ne s'arrête pas demain, même si on est le 31 décembre. Il se poursuit avec les représentations au Théâtre du Soleil de son dernier spectacle. C'est Kanata, épisode 1, La Controverse, présenté chez Ariane Mouchkine avec les comédiens de la troupe d'Ariane Mouchkine, mais mise en scène par Robert Lepage. Quant à nous, nous prenons la direction de l'Atlantique avec un coup de téléphone que nous passons à Vincent Léandry, directeur de la scène nationale de Quimper.
J'ai toujours œuvré dans des théâtres à l'italienne. Je suis dans une salle moderne qui a néanmoins un balcon, une acoustique formidable, donc qui est aussi un endroit où les publics se mélangent particulièrement. Et c'est évidemment aussi un lieu qui est connecté à l'ensemble des disciplines de l'art, du spectacle vivant. Et c'est évidemment aussi cet enjeu-là que j'ai à cœur de travailler avec les choses que j'ai déjà pu expérimenter auparavant dans ma carrière.
Lorsqu'on programme, ce qui est votre cas, à peu près 75 spectacles dans l'année, dont beaucoup, beaucoup de spectacles musicaux, qu'est-ce qu'on peut dire de la ligne générale qui est celle du lieu qu'on dirige ?
C'est à la fois tenir compte aussi des temporalités dont j'hérite par rapport à mes prédécesseurs et que j'ai souhaité conserver. Donc c'est des temps forts. Très bientôt, le festival Circa, qui s'étale sur 5 semaines à compter du mois de janvier, qui correspond, je dirais aussi, à un moment sur ce territoire où on a une envie de chaleur humaine, une envie de se retrouver différemment. C'est le festival Sonic, qui est un festival qui parcourt l'ensemble de la palette des musiques créatives d'aujourd'hui, que ce soit le jazz créatif ou que ce soit la musique classique contemporaine ou les musiques traditionnelles revisitées. Tenir compte aussi du fait que on est un lieu qui a été conservé, contrairement à ses grandes voisines de Brest ou de Lorient, et où donc je pense que l'articulation entre le patrimoine et la création contemporaine est quelque chose qui fait particulièrement sens. Donc tout ça donne déjà des orientations.
Dernière question, Vincent Léandry, vous êtes à l'initiative d'un projet que je trouve absolument passionnant et à mon avis tout à fait porteur. Ça s'appelle La Coopérative. Vous avez groupé vos forces avec les scènes nationales de Besançon, Dunkerque et Compiègne pour permettre la création d'opéras qui soient accessibles à un large public. Donc mutualisation pour que justement un art qui est perçu comme étant un art élitiste devienne accessible par le tarif réduit ou moindre au grand public.
Oui, c'est très sportif parce que tous les choix doivent être validés. Choix de l'œuvre, choix de la mise en scène, choix de la direction musicale, nous devons les valider ensemble. Donc c'est un travail extrêmement prenant, mais qui nous amène justement, effectivement, en direction des publics, à revisiter le répertoire de l'opéra. Et c'est aussi de faire venir un public qui n'a pas l'habitude de l'opéra, qui fasse que ces opéras soient aussi des histoires d'aujourd'hui et qu'on puisse venir les voir après avoir vu un concert et avant d'aller voir une pièce de théâtre.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Vanessa Nadjar, Jordan Fuentes, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture, restez à l'écoute. Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet vous attendent. Excellent dimanche à vous tous et surtout, excellente fête de fin d'année. On se retrouve en 2019, même jour, même heure.
She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word.